C'est donc pour introduire une série d'études que l'on va faire sur les rois d'Israël. Tiens, si je vous demande de me citer quelques rois d'Israël.
Salomon.
David.
Asa.
Jéroboam.
Josias.
Et on est vite à court, hein. Sachant que sur ces 4 ou 5 noms que vous avez cités, il y en a deux qui sont les plus souvent nommés. Ah, vous avez dit David ?
Oui,
David et Salomon. Donc. Et puis après, on a cité 2-3, alors qu'il y a eu... Voilà, vous avez sous vos yeux plein de noms de rois. Et puis, vous voyez qu'effectivement, alors pour ceux qui sont pas forcément très, très initiés, vous avez en fait là, sous vos yeux, la chronologie de tous les rois d'Israël. Le tout premier, c'est Saül. Le deuxième, c'est David, celui qu'on connaît bien. Le troisième, c'est Salomon. Ça va être l'introduction de ce matin. Et puis après, vous voyez comme deux colonnes. Parce qu'on va découvrir ça, mais le pays d'Israël, le royaume d'Israël a connu ce qu'on appelle un schisme, une division. Voilà. Et alors, il y a eu un roi au nord et un roi au sud. Et donc, voilà, c'est pour ça qu'il y a deux listes. Et donc, l'intérêt pour nous aussi, quand même, c'est de s'apercevoir qu'effectivement, dans la Bible, elle nous parle de tous les rois. Et la parole de Dieu nous dit que toutes ces choses nous sont arrivées afin qu'elles nous servent d'exemple, afin que nous-mêmes, nous n'ayons pas les mêmes mauvais désirs. Et c'est important que nous puissions tirer les leçons de l'histoire, et c'est ce que nous ferons. Et puis, nous tirerons également des leçons spirituelles pour nos propres vies. Alors il sera difficile, et c'est pas forcément le projet. On va pas forcément étudier chaque roi à fond dans les moindres détails, parce que je crois que là ça prendrait quelques années. Non pas que nous soyons pressés, mais je voudrais pas non plus vous lasser à long terme. Et puis surtout, ce que le désir qu'il y a sur mon cœur, c'est que j'aimerais pouvoir vous donner l'envie vous-même de replonger vos regards dans tous ces récits qui sont très riches d'enseignements. L'intérêt, justement, c'est, en vous amenant sur ce terrain, c'est vous apercevoir que ce sont des récits qui peuvent, de temps en temps, un peu nous paraître étranges ou difficiles parce que les noms sont compliqués. De temps en temps, il y a ce qu'on appelle des homonymes, c'est-à-dire qu'ils portent les mêmes noms, mais on ne parle pas des mêmes personnes. Alors, on a l'impression qu'on ne comprend rien parce qu'en fait, on l'a lu et puis il n'a pas fait les mêmes choses. Et on se perd un petit peu. Donc, le but, en fait, au travers de cette série, c'est justement d'avoir une lisibilité. C'est pour ça que cette chronologie, si elle vous intéresse, vous pourrez la garder, parce que comme ça, quand vous lirez, vous pourrez repérer qui est qui, plutôt que d'être devant tout le texte et d'être un peu perdu. Et puis surtout, de décoder, de tirer quelques leçons spirituelles. Alors ce matin, ce soir, on va faire l'introduction. À partir de la semaine prochaine, nous étudierons les rois à partir de la division qu'il y a eu. On expliquera le pourquoi de cette division. Mais là, ce soir, je voudrais voir les trois premiers rois. Vous savez qu'il y a des petites références. Les références, ce sont celles que nous allons lire ce soir. Déjà, ce qui est important de savoir, c'est qu'avant ces rois, des hommes et des femmes qui étaient qualifiés de juges. Ils n'étaient pas rois. Ils n'étaient pas juges tels que nous, on le conçoit dans notre justice. Déjà, des gens qui trônent et qui disent ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, non. Mais ce sont des hommes et des femmes qui étaient choisis par Dieu. Il n'y a même pas de critères particuliers. Et ils étaient un moyen de délivrance pour le peuple. Et en fait, c'est ce qu'on pourrait appeler une théocratie. Nous vivons en démocratie. C'est le peuple qui normalement décide, qui dirige. Et à l'époque, c'était une théocratie. Théo, c'est Dieu. Et c'est Dieu qui, en fait, au travers de ses juges, qui intervenait en faveur du peuple. Le peuple n'avait qu'une seule chose, c'était obéir à Dieu. Et Dieu s'occupait du reste. Il gérait, il conseillait, il envoyait les libérateurs qu'on appelait des juges. Le dernier que l'on a en date, c'est un monsieur qui s'appelle Samuel, et je vous invite à ouvrir votre Bible dans 1 Samuel. Et à un moment, il se passe quelque chose de très particulier, parce qu'on va lire ce soir la transition entre ce moment où le peuple d'Israël était sous un règne théocratique, donc dirigé par Dieu au travers de quelques hommes choisis comme ça ou femmes, et un moment où on est passé à la royauté. Et donc on est en 1 Samuel chapitre 8. On va lire les 9 premiers versets. Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son fils premier-né se nommait Joël et le second Abija. Ils étaient juges à Beersheba. Les fils de Samuel, donc ceux qu'il venait d'établir comme responsables, okay, du peuple, ne marchèrent point sur ses traces. Ils se livraient à la cupidité. Ils volaient, ils aimaient l'argent, recevaient des présents et violaient la justice. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent. Les anciens d'Israël, c'est des responsables. Et vinrent auprès de Samuel à Rama. Et ils lui dirent, « Voici, tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. » Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. Samuel vit avec déplaisir qu'il disait, donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. Et l'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. Car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait sortir d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute donc leur voix, mais donne-leur des avertissements et fais-leur connaître le droit du roi qui règnera sur eux. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Observez quand même que ce qui a poussé le peuple à demander à avoir un roi, un chef qui nous dirige, a été motivé par le fait que le peuple avait observé que les juges qui étaient en place, et notamment les fils de Samuel, étaient des hommes corrompus. Et là, il y a une leçon pour nous, amis. Si nous n'avons pas notre autorité spirituelle, si nous n'avons pas notre place spirituelle, si nous ne sommes pas à la hauteur de ce que nous prétendons être, des enfants de Dieu animés du Saint-Esprit, alors nous emmènerons l'Église à la misère. Nous entraînerons à faire des choix qui ne sont absolument pas des choix divins, mais des choix humains. Si nous ne sommes pas des hommes et des femmes remplis de l'Esprit, remplis de la qualité de la vie de l'Esprit, remplis des critères de la vie de l'Esprit, si nous ne sommes pas ce que nous devrions être en tant qu'enfants de Dieu, alors nous emmènerons le peuple de Dieu, l'Église. Et l'Église, ce n'est pas nous qui en sommes responsables. C'est Dieu qui est le chef de l'Église. Mais à cause de nous, nous emmènerons ce que Dieu voudrait voir comme son peuple embarqué dans des voies qui ne le glorifient pas. Faisons attention. Il est toujours facile de dire le peuple est rebelle, le peuple est méchant, les peuples ne veulent pas de Dieu. Mais si les responsables eux-mêmes, si les représentants, si les chefs ne sont pas à la hauteur, les responsables ne sont pas le peuple. Les responsables sont ceux qui ne prennent pas leurs responsabilités. Et nous sommes, en tant qu'enfants de Dieu, tous responsables de devoir vivre dans l'intégrité, dans l'obéissance de la parole de Dieu. Nous devons être des communicateurs de la justice. Nous ne devons pas être des cupides, mais des généreux. Nous ne devrions pas violer la loi, mais nous devrions la propager. Nous ne devrions pas être des hommes et des femmes misérables, mais nous devrions au contraire enrichir de nos bénédictions les autres. Vous connaissez Proverbe 29, 18 ? Faute de révélation, le peuple est sans frein. S'il n'y a pas la vraie révélation au milieu de nous, s'il n'y a pas la vraie visitation de l'Esprit au milieu de nous, c'est le peuple tout entier qui part à la dérive. Alors c'est vrai que lorsque le peuple a demandé à un roi, nous l'avons vu, Samuel vit avec déplaisir qu'il disait « Donne-nous un roi ». En fait, le peuple trouvait ça bien plus commode de se dire « Allez, ayons un roi, et puis on va le suivre, on fera tout ce qu'il nous dira », plutôt que de rester dans l'obéissance de la volonté de Dieu. Parce que c'est vrai que ça demande plus d'énergie et plus d'engagement personnel de chercher la face de Dieu, de chercher « Mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux ?» De rester dans l'humilité, dans l'écoute, dans l'introspection régulière, parce que pour être rempli du Saint-Esprit, pour être dirigé par le Seigneur et par le Saint-Esprit, il faut se remettre en cause régulièrement, n'est-ce pas ? Si nous sommes pleins d'a priori, pleins de convictions, pleins de certitudes, mais on va droit au mur. On a besoin régulièrement de dire « Seigneur, mais qu'est-ce que tu attends de moi ?» On a besoin de se remettre en cause. On a besoin de remettre même nos convictions sur le tapis et de les reformuler et de ressasser la parole de Dieu, de la lire régulièrement, n'est-ce pas ? Pour que celle-ci nous reparle. Ça fait pour quelques-uns parmi vous des années que vous lisez la parole de Dieu. Et pourtant, si vous l'aviez mis dans votre placard depuis quelques mois, vous sentirez qu'il y a un manque. Vous seriez comme désorienté. Nous avons besoin, quand on dépend de Dieu, de se remettre au travail régulièrement. Si nous ne le faisons pas, et c'est ce que le peuple disait et préférait, « Oh, donne-nous un roi !» Lui, il marchera devant nous et puis on n'aura plus qu'à suivre. On n'aura plus à se remettre en question. On n'aura plus à savoir si c'est agréable à Dieu ou pas. On n'aura plus besoin de se remettre nous-mêmes en question. Il suffira juste qu'on le suive. Faisons attention. Votre pasteur n'est pas votre guide. Le Seigneur Jésus est votre guide. La prédication n'est pas là pour remplacer votre conscience. Et encore moins l'action du Saint-Esprit. Nous sommes appelés à dépendre de Dieu. Nous sommes appelés à rester sous un régime théocratique pour nos vies personnelles. Nous sommes appelés à dépendre toujours du Saint-Esprit. Qu'importe, et c'est vrai qu'on est dans une société où on a de plus en plus de moyens d'entendre des prédications, moyens d'écouter la Bible, des moyens pour entendre des enseignements. Ça, on pourrait passer aujourd'hui des jours entiers à entendre des prédications. Mais combien de temps restons-nous à l'écoute du Saint-Esprit ? Il vaut mieux entendre moins de prédications et entendre plus la voix du Saint-Esprit dans nos cœurs. Sans cela, nous finirons par devenir des religieux évangéliques. On ira à la messe évangélique, on ira au culte évangélique, on ira aux musiques évangéliques, on entendra des sites évangéliques, on aura des pasteurs, on aura des événements évangéliques. Ce sera juste une belle religion évangélique. Ce que nous avons besoin, ce n'est pas d'un chef, ce n'est pas d'un leader, ce n'est pas d'une organisation. Ce que nous avons besoin, c'est de rester sous un régime théocratique. Seigneur, viens régner. Viens me parler, viens me conduire, viens m'enseigner, viens me reprendre, viens me conduire. Alors, Dieu a dit à Samuel, vas-y, fais ce qu'il te demande. Fais exactement tout ce qu'il te demande. Et c'est ainsi qu'effectivement, Samuel finit par trouver un jeune homme, très bien, à l'image du peuple, fort, vaillant, mais à l'image du peuple, instable. Parce que quand tout va bien, il est très bien. Et dès que l'orgueil, la suffisance, l'assurance et la crainte commencera à rentrer dans son cœur, il sera complètement désobéissant. Il sera même rebelle à la voix de Dieu. Mais ça aurait été le premier roi qui aurait régné pendant 40 ans. Le roi choisi par le peuple, le roi à l'image du peuple, le roi de la déception.
Saül. Alors, après ce malheureux accident, on va découvrir un autre roi, le deuxième roi, qui sera le roi David. On peut aller dans 1 Samuel, chapitre 16. Et si le premier roi, c'était le roi choisi par le peuple, désigné, souhaité par le peuple, et que Dieu a permis, vous savez, il y a des fois, on est tellement entêté dans nos voies que le Seigneur finit par dire, « Ok, vas-y, vas-y, Dieu nous a fait libres. » Et il y a des fois, on veut tellement quelque chose qu'on finit même par dire c'est le Seigneur qui veut. Hein. On entend comme ça des jeunes gens, ou moins jeunes d'ailleurs, qui sont en train de fréquenter des inconvertis et qui sont capables de vous dire mais c'est le Seigneur. Non, le Seigneur ne veut pas que tu te mettes avec un inconverti. Toute la parole le dit. Mais toi, tu veux tellement que tu finis par dire que c'est le Seigneur qui veut. Et Dieu ne voulait pas qu'il y ait un roi qui règne, il voulait lui régner. Alors il les a laissés à ce premier roi. Mais sur le deuxième roi, en 1 Samuel chapitre 16, il est écrit au verset 1er, « L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül ?» Parce que Dieu a jugé Saül et il l'a rejeté. Alors Samuel est catastrophé. Il est catastrophé pour le peuple, il est catastrophé de cette situation. Et Dieu continue, « Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Ésaïe, Bethléemite. Car, écoutez cette phrase, « J'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » J'ai vu parmi ses fils celui, c'est Dieu qui parle, celui que je désire pour roi. Amen. David est le roi choisi, désiré. Et pourquoi est-ce que Dieu désire cet homme? Parce que Dieu a vu ce jeune homme. Il a vu sa conduite. Il a vu son état de cœur. Il a vu ses motivations. Et pourtant, ce David était un jeune homme, un simple berger perdu en pleine campagne, issu de la plus petite des familles. Vous êtes peut-être la plus petite des familles, le plus misérable parmi les perdus des perdus. Vous êtes, même quand vous êtes à la sécurité sociale, on reconnaît, on ne sait même pas où est votre numéro. Vous êtes qui, vous ? David, c'était le paumé de paumé. Mais Dieu l'a vu. Amen. Dieu vous voit. Même quand vous êtes tout seul, perdu dans votre coin, que vous êtes en train de vous poser, mais pourquoi je fais ça? Dites-vous que Dieu vous voit. Et que le regard de Dieu doit vous motiver à toujours faire les choses, non point selon le regard des hommes, mais sous le regard de Dieu. Amen. Et c'est exactement ce que dit Paul. Faites toutes choses de bon cœur, non pas pour les hommes, mais pour le Seigneur. Sachez que le regard de Dieu est sur votre vie. Même si les hommes ne vous applaudiront pas, même si les hommes ne vous récompenseront pas, ce n'est pas ça l'équipe des anciens. L'essentiel, c'est que vous sachiez que vous êtes désiré de Dieu. Amen. Voici David, le roi que je désire pour roi. Il était un homme fidèle, loyal. Et il y a un verset, c'est en 1 Roi 5:5, pour ceux qui prennent des notes, 1 Roi 5:5, qui résume la vie de David. Il dit « David avait fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel et il ne s'était détourné d'aucun de ses commandements pendant toute sa vie. » C'est super comme résumé d'une vie quand même. Virgule, excepté dans l'affaire d'Uri le Héthien. David était super droit, tout ce qu'il fallait il l'a fait, il a obéi, c'était un homme extraordinaire, sauf une fois. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Cette affaire, c'est l'affaire où effectivement soyons clairs, hein, il a couché avec la voisine et puis quand la voisine était enceinte, il s'est dit punaise, je suis foutu, tout le monde va le savoir. Alors je vais zigouiller la tête de son mari, et puis comme ça je pourrai la prendre en femme, et puis je suis roi quand même, je fais ce que je veux, non?
Tu as fait ça. Une fois avait fait tuer le gars, il a pris la femme a accouché. Ni vu ni connu, je suis quand même le boss, non? Je suis le roi. Ce n'est pas la seule situation où David a péché, vous savez. Il y a plusieurs autres situations où David a péché, avec des conséquences beaucoup plus graves. Parce que dans cette histoire du riz, en fait, il y a eu quoi? Il y a eu, oui, effectivement, il a fait un adultère. Il y a eu un mort, deux morts avec l'enfant, mais c'est plutôt indirect. Franchement, à l'époque, deux morts et un adultère, c'est plutôt correct, quoi. Hein. Surtout qu'il y a des situations où ce sont des milliers de personnes qui sont mortes lorsqu'il a fait le dénombrement, quand il avait fait d'autres situations. Pourquoi est-ce que cette affaire paraît être une tache sur son CV qui pourtant paraît être plutôt exemplaire? Ce n'est pas le péché qui pose problème. Dieu n'attend pas des hommes et des femmes parfaites. De toute façon, il sait que il ne peut pas en trouver. Le seul qui était sans péché, c'est Jésus. Ce que Dieu a reproché dans la situation de David, c'est qu'il a cru qu'il pouvait s'abstenir de la repentance. Il a cherché à camoufler son péché. Il sait qu'il avait mal fait, mais il refusait de le reconnaître. Il sait qu'il avait péché, mais il essayait de magouiller pour que, allez, ça se sache pas. Il sait qu'il avait péché, mais au lieu tout de suite, comme toutes les autres situations, dans toutes les autres situations, David s'est humilié. David a apporté la réparation même de sa faute. Et j'ai péché, je demande pardon à Dieu et je répare. À chaque situation que David a pu trébucher, et il a trébuché plus d'une fois parce qu'il est un homme comme tous les autres. David s'est incliné devant Dieu et le cœur de Dieu s'est incliné en sa faveur. Mais dans cette situation-là, le cœur de David a été comme saisi, je ne sais pas, d'orgueil, de folie. Qu'est-ce qui s'est passé? N'était-il pas plus simple de reconnaître son erreur? Ah, mais c'est pas évident quand même d'aller voir le mari et lui dire, au fait, ta femme elle est enceinte, c'est à cause de moi. Ah, oui. C'est peut-être tant plus simple de couper la tête des gens que d'aller s'humilier. Tant plus simple de fermer les yeux que d'affronter les circonstances. Ce sera la grosse tâche sur le CV de David. Et dans la vie de David, à partir de cette situation de sa vie, la vie de David n'est plus la même. Il connaîtra des difficultés, des attaques beaucoup plus importante qu'avant, des problèmes dans sa famille. Ne négligeons jamais nos péchés, mes bien-aimés. Il n'y a pas de grands ou de petits péchés devant Dieu. Dieu sait qu'on est des pécheurs, ce n'est pas ça le problème. Tout ce qu'il attend de notre part, c'est que nous ayons l'humilité de confesser nos péchés. Et c'est l'invitation qu'il nous donne. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Dieu sait que nous sommes des pécheurs. Et c'est pas ça le problème. Le problème, c'est de refuser de nous humilier et de chercher la réparation. Alors, ce fut le deuxième roi. Et à cause de cette infidélité, c'est vrai, David connaîtra de nombreux tracas. À cause aussi de sa vie, David a une vie de guerrier. Et à cause de son activité très militaire, alors qu'il a eu à cœur de construire le temple de Dieu, Dieu lui dira « Non, ce ne sera pas toi, tu as trop de sang sur tes mains. Ce ne sera pas toi, ce sera ton fils. » Mais Dieu quand même est juste. Dieu nous dit toujours que Dieu élève celui qui s'humilie. Et s'il y a bien quelque chose qui caractérise David, c'est l'humilité. Un homme qui a toujours resté... qui a su rester dans l'humilité, dans la grâce, dans la dépendance de Dieu. C'est peut-être vraiment le roi le plus humble que l'on puisse trouver parmi tous ces rois. Et à cause de sa fidélité, Dieu a fait une promesse à David. Laquelle? Qu'il aurait toujours un de ses descendants sur le trône. Toujours. Toujours. Qui est le descendant de David qui trône aujourd'hui? C'est Jésus. Jésus, qui est effectivement, c'est pour ça qu'il y a une généalogie de Jésus qui nous montre qu'effectivement Jésus est descendant de David et Jésus est celui qui règne encore aujourd'hui et qui régnera éternellement. Amen. Mais nous verrons qu'effectivement, dans cette lignée, la jaune, il y a toujours des fils de David. Et donc le fils qui a succédé à, enfin le roi qui a succédé à David et qui est donc le fils de David, c'est Salomon. Alors Salomon, là je ne sais pas si je vous ai mis la référence, 2 Chroniques, mais tout à l'heure on verra plutôt un roi ensemble. Là je vous lis ce qui est écrit sur Salomon, 2 Chroniques chapitre 1 verset 12, il est écrit « La sagesse, c'est Dieu qui parle à Salomon, et l'intelligence te sont accordées. » C'est déjà un beau cadeau. Mais c'est pas fini. « Je te donnerai en outre des richesses, des biens et de la gloire comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi. » Et pourtant David rayonnait sur un territoire incroyable, il avait une renommée incroyable. Mais il est promis à Salomon quelque chose d'encore plus grand. Et non seulement, même ceux qui te suivront après toi n'auront jamais cette gloire, cette richesse, cette intelligence et cette sagesse que je te donne à toi. Salomon, oh ! Ça, lui, il a eu le gros lot. L'intelligence, la gloire, les richesses, la notoriété. C'est lui qui aura... À qui David va lui confier la tâche de construire le temple de Salomon. Le temple de Salomon, c'est un bâtiment extraordinaire. C'est par lui que Jérusalem va devenir la capitale spirituelle du monde. Il devient celui qui fait de Jérusalem le centre du monde. Et encore aujourd'hui, est-ce qu'on ne parle pas encore de Jérusalem ? Pierre de scandale pour toutes les nations ? Mais ça commence là, grâce à Salomon qui a construit le temple ici. Allez, lisons un roi. Un dicton dit qu'il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Et c'est incroyable de réaliser que ce Salomon, qui a reçu sagesse, intelligence, gloire, richesse, bien, au-dessus et de manière inégalée à tous les autres rois, va finir très tristement. Un roi, chapitre 11, versets 3 à 5. Ce cher Salomon eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Je ne sais pas comment il faisait. Mais le pire n'est pas là. Et ses femmes détournèrent son cœur. Et regardez, ce n'est pas à n'importe quel moment. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ses femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur ne fut plus tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David son père. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites, etc., etc. Et quand on lit la suite, on a lu 700 princesses, 300 concubines, chacune de pays étrangers, et pour chacune de ces divinités, Salomon a accordé qu'il soit bâti un temple, un autel pour ces divinités-là. Incroyable ! Mais elle est passée où ta sagesse ? Elle est passée où ta gloire ? Elle est passée où ta renommée ? Toi qui as bâti le temple ! Voilà que tu as multiplié, tu as infesté le pays de tous ces faux dieux. Et certains de ces abominables faux dieux demandaient des sacrifices humains. Et Salomon, en accordant la présence de ses temps, accordait, permettait ce genre de choses. Certains réclamaient la prostitution sacrée. Et allez, on y va ! Mais quelle folie ! Un an ? 3 ans ? 10 ans ? 40 ans ? Je parle de quoi ?
des années de conversion. Ne font pas de nous des hommes et des femmes parfaits. Des hommes et des femmes acquis. Des hommes et des femmes installés.
Oh, vous savez, moi, ça fait 50 ans que je suis au Seigneur, là.
C'est bien. Veillons sur notre cœur plus que toute autre chose. Restons dans l'humilité. Rien n'est jamais acquis.
Ah, mais où je suis pasteur? Moi, c'est pas pareil, moi, je suis pasteur.
Non. On doit tous veiller sur nous-mêmes.
Chaque jour, on doit reprendre notre vie spirituelle comme si c'était le premier jour.
Tant mieux si on a de la bouteille, tant mieux si on a de l'expérience. Mais veillons. Qui peut prétendre qu'il avait la sagesse et l'intelligence de Salomon au début de sa conversion? Personne. Alors si nous, on commence encore plus bas que lui, que nous soyons encore plus sur nos gardes. Parce que si ça peut arriver à Salomon, ça peut arriver à n'importe qui d'entre nous.
Veillons.
Un vieux pasteur me disait, tu sais Benoît, c'est pas au début de notre ministère que c'est dur qu'il faut veiller, c'est plutôt vers la fin de notre ministère qu'il faut encore veiller, encore plus. Soyons des hommes, soyons conscients que nous sommes des gens faillibles. Et ce n'est pas notre expérience, ce n'est pas nos années de conversion qui nous donneront de la maturité. C'est Jésus qui l'a dit, Matthieu 24, 13.
Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin
sera sauvé. Restons dans l'humilité. Restons, allez, reprenons l'idée première, sous la théocratie du Seigneur. Restons dans l'écoute de la voix du Saint-Esprit. Restons dans l'obéissance de sa parole. Il est étonnant de s'apercevoir que quand un jeune se convertit, quand une personne se convertit, tout de suite elle a envie de bien faire, elle a envie d'obéir à la parole de Dieu. Et c'est étonnant de s'apercevoir qu'on a l'impression que plus les gens ont de l'expérience, de l'âge spirituel, et plus c'est compliqué de leur demander d'obéir. Alors que ça devrait être l'inverse. Plus on doit être rempli du Saint-Esprit, plus on doit être enclin à obéir.
Mais on est comme ça.
Avec l'âge, pardonnez-moi, je ne veux insulter personne. Alors, je ne suis pas le plus jeune, ça va. Même si avec l'âge, on ne devient pas forcément meilleur. C'est pas une obligation. Ça devrait. Ça devrait. Et on doit veiller sur nous-mêmes afin que notre cœur soit toujours aussi ouvert, malléable au jour de notre conversion, et j'ai même envie de dire encore plus, encore plus. Alors, et nous verrons ça la semaine prochaine, mais ce sera justement à cause de tout ce qu'aura fait Salomon que Dieu décidera de créer un schisme, une division. On peut lire les versets 11 et 12 qu'on relira la semaine prochaine. Donc, on est toujours dans le chapitre 11, et on va au verset 11. Et l'Éternel dit à Salomon, « Puisque tu as agi de la sorte, et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus de toi. » Voilà. On voit l'image, un royaume qui est déchiré, qui est divisé en deux. Et je le donnerai à ton serviteur. Seulement, je ne le ferai point pendant ta vie, à cause de David ton père. C'est de la main de ton fils que je l'arracherai, et je n'arracherai rien pendant tout. Cependant, pas tout le royaume, je laisserai une tribu à ton fils à cause de David mon serviteur, à cause de Jérusalem que j'ai choisi. Amen. Donc on verra ça un peu plus explicitement la semaine prochaine, mais nous voyons que c'est à cause, j'ai envie de dire, de cette perdition spirituelle de Salomon qui a entraîné le peuple dans l'idolâtrie, que Dieu va sanctionner Salomon en divisant le royaume en deux. Et nous verrons à partir de la semaine prochaine Roboam et les autres rois d'Israël. Amen. Alors veillons.